Bonsoir Aude Lavigne, on vous retrouve demain à 20h55. Bonsoir à toutes et à tous. La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Jean-Max Collard se font face à notre affiche Pixel Collage de Thomas Hirschhorn à la galerie Chantal Crouzel. Steve McQueen à la galerie Marianne Goodman. Nous évoquerons aussi plus rapidement Villes en ruines, images, mémoires, métamorphose de Salvatore Settis, Monica Preti, c'est chez Azan. Et puis l'année dernière à Marianne Ban, un film comme œuvre d'art, c'est au Kunstmuseum de Brême. Vers 21h20, Antoine Guillaume nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour le film Les Premiers, Les Derniers de Bouly Lenners, qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Enfin, nous avons rendez-vous avec la galeriste Chantal Crouzel, qui est toute cette semaine l'invitée de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute spéciale galerie, finalement, avec la 5e exposition de Steve McQueen à la galerie Marianne Goodman à Paris. Il y a longtemps qu'on l'aime, Steve McQueen, que ce soit en galerie ou au cinéma, mais enfin, l'amour n'est pas aveugle. Et il s'agit de savoir à chaque fois si le résultat est à la hauteur de l'attente. Suspense. McQueen qui présente plusieurs pièces dans la galerie Marianne Goodman à Paris, une installation de néons, de sculptures et Ashes, une œuvre constituée de deux films projetés simultanément de part et d'autre d'un même écran suspendu. Mais je ne sais pas par quelle pièce vous avez envie de commencer, c'est une impression globale, mais enfin ce sont quand même des travaux assez différents les uns des autres. Corinne Rondeau ?
Oui, on pourrait dire qu'on pourrait commencer par la salle du bas, là où se trouve le film Ashes.
Oui, il me semble.
En même temps, c'est une exposition qui fait constellation. Même si les œuvres sont produites de manière séparée, elles se répondent toutes les unes aux autres. À savoir
on
que...
note. On note constellation. Fait constellation.
Ah,
on
pardon note
non, c'est très joli.
Chers amis,
très joli.
Très juste.
Et pas mieux.
Pas pour l'instant, ça va venir.
Attendons.
Et parce que justement, vous parliez du double écran, et effectivement, on est accueilli par un écran... qui est solaire, c'est un jeune garçon. Alors ce film était déjà présenté à la Biennale de Venise, mais sans doute Jean-Max en parlera. Donc une première image, c'est un garçon qui était dans les rushs d'un film précédemment fait par Steve McQueen, qui était Carabbi Sleep, qui se voit en diptyque normalement avec Western Deep. Hein, c'était d'un côté aller dans les mines d'extraction. Et de l'autre, Carabbi Sleep, c'était une vision extérieure de l'océan, enfin, des gens de l'île de la Grenade aussi, dont est originaire en partie Steve McQueen. Donc là, il avait dans ses rushs ce qu'on voit, c'est-à-dire un type d'une beauté folle, un noir. Il est prodigieusement beau, il a un sourire d'une insouciance folle, il est pris par le mouvement, la proue d'une barre, comme ça, il est sur... Il est carrément, je dirais, il est au point de la ligne d'horizon entre le ciel et la mer, comme ça, et puis il va plonger. C'est sans doute le moment où il faut tourner, aller de l'autre côté, de l'autre écran, où là, effectivement, on a l'autre histoire de ce rush de Steve McQueen, qui fait film désormais, c'est-à-dire l'histoire de ce jeune homme qui a disparu, puisqu'en fait, après avoir tourné ses rushs, il a appris plusieurs années après qu'il avait été tué. Et donc, on nous raconte cette histoire. Et ce qui est très beau, c'est que dans ce film, il y a toute une histoire sur comment raconter quelque chose de la vie et de la fin de quelqu'un, et comment l'inscrire dans une temporalité qui n'est plus la dimension solaire, mais... la dimension de faire un acte de mémoire. Et tout le film est une manière de construire, en fait, par des gestes simples qui sont à la fois la construction d'une sépulture et l'inscription sur une plaque de marbre du nom et qui est Achise, entré dans le repos. Donc ce qui est très beau, c'est en fait comment le film est construit. Il est construit à la fois sur une voix off qui raconte l'histoire par ceux qui l'ont connue, au moment où on est en train de travailler l'inscription de la pierre tombale, et tout le silence ensuite du film, dans lequel on entend la mère de l'autre écran, c'est de rappeler finalement que le geste de Steve McQueen est redoublé par le geste de ces maçons qui élèvent une sépulture. Et ce qui est assez beau, c'est ce rapport en fait entre la contemplation de cette mère d'une grande beauté et la méditation sur le rapport à l'inscription d'une mémoire par le témoignage, mais ce qui va rester, c'est l'écriture. Et je crois que toute cette histoire que nous raconte Steve McQueen se disperse ensuite dans le reste de l'exposition, avec des néons où il y a Remember Me. Il a voulu que des gens écrivent chacun à leur manière, sur des écrans, des néons noirs. Et donc la salle est complètement sépulcrale. Et c'est aussi la question de l'inscription. Cette exposition tourne autour de l'inscription. Comment écrire une histoire? Comment fabriquer une histoire avec des sculptures aussi? Il y a deux types de sculptures, deux pierres recouvertes d'argent. C'est une manière aussi de dire, il y a quelque chose du silence qui opère. D'ailleurs, le film travaille entre le son de la mer, le silence de la fabrication qui est hypnotique de cette tombe qui s'élève, et en même temps le récit de la voix off de ce qui se raconte. Et puis les d'autres sculptures qui sont des broken columns, des colonnes brisées. Donc il travaille sur la rupture et le double chaque fois. Qu'est-ce qui parle de ce qui ne se parle pas? Qu'est-ce qui s'inscrit de l'histoire? Comment je trouve que là, le travail de Steve McQueen n'est pas du tout dans le rapport narratif à son cinéma, c'est une manière de construire ce qui n'est plus là. Et il se trouve à cette disjonction qui me paraît, en tout cas moi, qui m'excite assez sur la manière de construire la mise en œuvre de l'exposition elle-même.
Jean-Marc Scolar.
Pas mieux, hein.
Pas mieux, bon. Sujet suivant, non.
Effectivement, il faut partir du film qui est ce diptyque en recto verso qui se tient dans la salle du bas.
Qui est fait pour qu'on ne puisse pas voir les deux images en même temps.
Enfin, voilà, où il passe du vivant à la mort, dans un côté comme ça biface. Et il faut effectivement aller à cet endroit, dans ce noyau en quelque sorte de l'exposition, pour voir qu'en effet toutes les pièces qu'on a précédemment regardées et la pièce qui serait au fond avec ces deux colonnes brisées sont effectivement des correspondances, des extensions, presque des produits dérivés. Mais alors, ce qui est marrant, c'est des produits dérivés, mais qui n'ont pas la dimension du produit dérivé tel qu'on peut l'employer dans l'industrie du cinéma, mais qui auraient ce statut d'un produit dérivé. Simplement, ici, ce sont évidemment des œuvres d'art à part entière et qui peuvent aussi avoir leur autonomie. Et donc, l'idée que... Moi, ce que je trouve très beau, c'est au fond que Steve McQueen, qui est quand même aujourd'hui quelqu'un qui a parfaitement réussi dans le champ du cinéma et... On peut quand même le dire, c'est assez rare en fin de compte. Oui, parmi tous les artistes contemporains qui se sont essayés vraiment au cinéma, qui ont essayé d'investir vraiment le champ cinématographique, ils n'ont pas été si nombreux à réussir à ce point.
Puis on a rappelé hier qu'il est le seul réalisateur noir à avoir remporté l'Oscar du meilleur film pour 12 Years a Slave. C'était dans la polémique sur les Oscars trop blancs.
Ah oui, c'est vrai.
Mais c'est un fait aussi. Au-delà de l'Oscar, voilà, ces films sont là et bien là.
Et pourtant, il n'est pas le seul Steve McQueen.
D'ailleurs, ce qui était un handicap de départ.
C'était quand même pas facile. Donc, il a réussi là où d'autres très grands artistes, on peut penser, par exemple, Cindy Sherman a fait un long métrage. Sophie Carl a fait un très beau long métrage, mais elle n'en a fait qu'un. Philippe Parrainot, Douglas Gordon, Pierre Huyghe sont animés par un désir de film. Et Matthew Barney aussi, évidemment, qui lui fait aussi des longs métrages, mais ils n'ont pas, évidemment, cette pénétration du champ cinématographique. Et là, quand c'est assez beau déjà de revoir Steve McQueen, dans le champ de l'art, continuer quand même. Et on voit que c'est très différent, qu'il a une manière de penser le film au-delà de l'objet filmique, justement, au-delà de la salle, et du coup de voir ces objets qui sont comme ça des extensions. Cela dit, on pourrait dire aussi que, par exemple, la pièce des néons, Moi, personnellement, je la trouve un peu faible. Et j'aime, ça m'inspire même un commentaire. C'est que, vous savez, dans l'art contemporain, on a parfois l'impression que c'est comme en pharmacie, il y a des génériques. C'est-à-dire, on a l'impression que si on me dit, bon, bah, c'est une pièce de Christian Boltanski, je dis oui. Si on me dit, c'est une pièce de Pistoletto, je dis oui. De Claude Lévesque, avec ses signatures manuscrites un peu tremblées, etc. Donc, c'est une pièce qui est là, comme ça, d'emblée, très impersonnelle, qui est comme un peu un générique d'art contemporain. Et il va falloir entrer, effectivement, progressivement dans le film pour montrer, pour voir la constellation. Vraiment, quel mot formidable pour bien dire l'expo. Il y a aussi deux affiches qui disent le pitch de cette histoire tragique, c'est-à-dire de ce jeune homme qui avait d'abord été filmé et puis dont Steve McQueen vient finalement filmer
l'inhumation.
L'inhumation, exactement. Et donc, ces deux affiches, là encore, c'est presque un générique d'art contemporain. C'est des piles de posters qu'on peut emprunter comme on les a connus de Félix González Torres. Sauf que là, c'est en fond l'affiche du film, que chacun peut emporter avec soi, ce qui fait écho
biface, elle aussi. Dormi.
Donc il y a quelque chose de comme ça qui est assez beau, voilà, dans cette manière un peu de montrer que le cinéma exposé, eh bien, Steve McQueen continue effectivement à le penser, et c'est évidemment différent quand tout ça se rétracte dans un seul objet filmique.
Mais c'est vrai qu'on l'évoquait hier à propos du film de Bully Lenners, on l'évoquait aussi, on faisait un rappel sur le fils de Saul, c'est la question aussi de la sépulture. Qu'est-ce que c'est que ce En quoi ça consiste de l'humanité que de donner une sépulture aussi? C'est aussi une réponse. Non, on n'est pas d'accord.
Si, je suis d'accord, mais enfin bon, c'est un peu une tarte à la crème, quoi.
C'est un fondamental aussi.
Non, de l'humanité. Non, mais on est bien d'accord. Ce serait la naissance du langage, la sépulture. Donc c'est la manière de ritualiser, de symboliser. C'est aussi une manière de dire on croit à quelque chose. Hein, je veux dire, si vous croyez à la mort, c'est que vous ne croyez plus que cette personne vit. Donc vous lui donnez la sépulture. Donc ça, que le rapport à la mort soit présent, puisque la question quand même du cinéma de Steve McQueen, c'est quand même qu'on vit dans des prisons. Là-dessus, ça serait limité que de dire ce n'est que ça. Ce n'est pas que ça, et je suis pas d'accord du tout avec l'idée des multiples de l'exposition. Toute l'exposition travaille toujours sur le double. Le double du néon, il est noir, il est clair derrière. Les deux rochers, les deux pierres, les moonlit, les deux colonnes et le texte. À la fois, ce n'est pas le pitch du tout, c'est ce qui est dit dans la vidéo. C'est donc l'inscription de l'image et l'inscription tel que. Et tout le film n'arrête pas d'appuyer sur la voix pendant que le burin ou bien quand on trace l'inscription de la pierre tombale. C'est-à-dire que tout ce qui est en train d'être fait par Steve McQueen, c'est la possibilité d'inscrire par un geste simple la présence des vivants par rapport à ce qui est passé. Et c'est la vraie question de l'écran double, le présent qu'on voit sublime et contemplatif, solaire de Hachis. Voilà, et ce type est mort. Bon, ce type est mort, mais en fait, il en fait du présent. La main de quelqu'un qui vient écrire Remember Me, c'est du présent. L'affiche que vous emportez avec vous, ou pas d'ailleurs, qui vous rappelle derrière cette jolie l'image de ce dos de Black que vous avez envie de prendre dans vos bras, l'histoire de pourquoi et comment il est mort, c'est ne jamais perdre de vue, d'une certaine manière, l'histoire du plongeon de ce garçon. Et que cette chose, ce garçon qui tombe dans l'eau, ce plongeon-là, le conduit justement à retravailler la surface. Vous savez, c'est une manière de... Il y a un moment donné, il y a dans le film, par exemple, le coup de burin. Et il filme de telle sorte qu'il y a un reflet de la surface qui est en train d'être travaillé. Et c'est magnifique parce que c'est simplement nous rappeler qu'à toute surface, vous rêvez d'une profondeur. Et toute l'exposition de Steve McQueen est là pour nous rappeler que derrière ces gestes simples, ces inscriptions simples, ces colonnes brisées simples, qui sont les interruptions des vies, ou que ces pierres qui sont froides finalement, ces deux pierres recouvertes d'argent, est une manière de dire le silence est tranchant, mais c'est par aussi le silence que la main prend en acte l'élévation, la mémoire, la sépulture, c'est faire acte d'une vie quand les gens ne sont plus là. La question de Steve McQueen et même de son cinéma, c'est de se dire qu'est-ce que c'est qu'un corps quand il est plus là. Voilà, ça me paraît quand même essentiel, parce qu'au lieu d'être un peu putassier comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, il n'en fait pas, je dirais, un fonds de commerce, et c'est pas des objets de multiples ou je ne sais quoi, ou d'extension de ça pourrait ressembler à ça. La constellation a une cohérence en elle-même. C'est la raison pour laquelle j'utilisais ce mot de constellation, chers amis. Et je trouve qu'au contraire, c'est une manière de nous faire penser le récit à travers des choses qui ne sont plus là. Et la dimension non, commerce, justement, de cette mort. Vous voyez? C'est-à-dire faire, c'est là où on peut juger, je dirais, de la portée d'un artiste. Enfin, pas d'un artiste, de son œuvre, plutôt. En quoi, justement, cette œuvre nous conduit à être dans du présent, construire des récits, ce qui est en train d'être le cas à la galerie Marianne Goodman, et ceux qui, finalement, ne sont qu'en train de flatter ou de lever un drapeau pour dire, ben voilà, les gens sont morts, ben que faire? Je rappelle tout de même que c'est Steve McQueen qui a décidé d'élever une tombe à Ashes parce qu'il n'en avait pas, ce qui n'est pas rien.
Jean-Max Collard.
Oui, j'entends, je reconnais. C'est vrai que je fais mon mea culpa sur le poster. C'est vrai que c'est le texte effectivement qu'on entend en voix off. Donc c'est à la fois, puisque c'est juste avant la salle.
Là aussi, il faut le donner les images, c'est biface. Il y a d'un côté la photo, le photogramme seul, ce dos qu'évoquait Corinne, et au verso, c'est cette même image, mais le texte.
Avec le texte de
cette voix off qui remplit tout l'espace de la photographie.
En anglais ou en français, voilà. Et sachant que le film n'est pas sous-titré.
Ouais, et qui raconte le récit de tragique de jeune homme et de cette relation à la question de la drogue, puisque c'est dans une affaire de drogue qu'il a été assassiné. Et donc d'un côté, c'est en même temps c'est avant la vision du film, donc ça a une dimension d'affiche, et effectivement après ça peut être aussi une trace du film. Et d'un autre point de vue, la référence à Félix González Torres, c'est très juste aussi. Mais ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que la pièce les deux sculptures du fond, les broken columns, deux colonnes brisées qui en fait en sont une, et l'autre est en sorte de sa maquette, hein, puisque on a comme ça deux objets qui sont d'échelles très différentes, sont là pour le coup aussi une très belle pièce, et qui donne effectivement cette profondeur, je dirais, de vue, cette dimension sculpturale à laquelle on n'était pas spécialement habitué chez Steve McQueen. Et je dois dire, puisque Corinne en parlait tout à l'heure, que moi, quand j'ai vu le film de Steve McQueen à la Biennale de Venise, ça n'était pas du tout comme ça. Et je me souviens même pas du jeu biface du film. Je me souviens surtout de l'image de face, c'est-à-dire de ce jeune homme, ce très beau jeune homme, comme ça, solaire et tout ça. Et je ne me souviens pas, en réalité, de l'autre partie du film. Et donc, là, j'avoue que j'étais aussi surpris de reconsidérer à la fois le film et puis toute l'exposition. Ça dit aussi qu'on est parfois de très mauvais spectateurs dans le marathon de la Biennale de Venise.
C'est certain.
Et peut-être aussi aujourd'hui.
C'est pour ça qu'il a écrit des Remember Me.
Non, mais ça souligne aussi la qualité, disons-le, d'une exposition en galerie comme on peut la voir chez Marianne Goodman, comme on peut en voir souvent chez elle et dans d'autres galeries parisiennes, et qu'on a cette chance de pouvoir avoir un accès, je le dis toujours, mais libre, sans faire la queue, donc sans payer, à des œuvres tout à fait majeures.
Oui, et puis par rapport juste à l'industrie du cinéma, ce que je trouve quand même fort, c'est qu'au fond, c'est un biopic. Sauf qu'on a la vie, la mort d'une manière très très resserrée, et là il y a aussi je dirais quelque chose qui passe pas du tout par les codes du genre, puisque ça n'en est pas du point de vue générique. On n'a pas la biographie de ce jeune homme, on a juste quelques éclats en quelque sorte d'existence d'une biographie qui en fait existe dans la filmographie de Steve McQueen. Et là je trouve il y a quelque chose de très beau, et qui se détourne aussi d'une industrie du cinéma dans laquelle Steve McQueen peut être largement impliqué par ailleurs.
Cette exposition de Steve McQueen est visible à la galerie Marianne Goodman, 79 rue du Temple, à Paris, jusqu'au 27 février.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de parler de Thomas Hirschhorn, nous retrouverons l'invité de La Dispute, qui se trouve être justement sa galeriste, Chantal Crouzel. Nous évoquerons aussi le livre « Villes en ruines, images, mémoires, métamorphoses » de Salvatore Settis et Monica Preti, ainsi que l'exposition de la Kunsthalle de Brême, l'année dernière à Marienbad, un film comme œuvre d'art. Pour l'heure, la revue de presse culturelle quotidienne, alors comme œuvre d'art peut-être. On va voir ça avec Antoine Guillot. « Bonsoir cher Antoine.
Bonsoir Arnaud Laporte, bonsoir à toutes et à tous. À quelques mois de l'ouverture de son extension, ce sera en juin, la Tate Modern de Londres vient de se doter d'une nouvelle directrice, nous apprend une brève de la Croix, Frances Morris, 57 ans, entrée comme conservatrice à la Tate Modern en 1987, va succéder à Chris Derkon qui part diriger, on en avait parlé à Berlin, le théâtre de la Volksbühne. Autre nomination cette fois au musée Benaki d'Athènes, riche de 500 000 objets d'art allant de la préhistoire à la peinture du XXe siècle, le poste de directeur vient d'en être confié au français Olivier Descotes, ancien directeur de l'Institut français d'Athènes. La nomination d'Olivier Descotes à ses détracteurs, constate la correspondante du Monde à Athènes, Adéa Guillot. Certains regrettent que la Grèce soit allée chercher un étranger pour diriger une institution si symbolique de la culture grecque. La très respectée archéologue Lila Marangou déplore, elle, que le conseil d'administration du Benaki n'ait pas fait le choix d'un vrai profil scientifique, un historien ou un archéologue, fin connaisseur des civilisations, des préventions que Descotes, diplômé de Sciences Po, de la Sorbonne et de Cambridge, entend désarmer. J'ai effectivement un profil de manager culturel après avoir dirigé l'Institut français d'Athènes et de Milan, mais vous savez, au Louvre, au Grand Palais ou au Centre Pompidou, ce sont aussi d'abord de grands managers. La preuve, Sylvie Hubach, qui va prendre la présidence de la RMN Grand Palais en remplacement de Jean-Paul Cluzel, atteint par la limite d'âge. Énarque, elle fut la directrice du cabinet du président à l'Élysée de 2012 à début 2015. Pour autant, rappelle Jean-Christophe Castelin dans le Journal des Arts, Sylvie Hubach n'est pas totalement étrangère au monde de la culture. Elle a été directrice adjointe du cabinet de Jack Lang, ministre de la Culture de 92 à 93, et directrice de la musique, du théâtre et des spectacles rue de Valois de 2002 à 2004, alors que Jean-Jacques Ayagon, puis Renaud Donnedieu de Vabre, étaient ministres de la culture. Elle a également été présidente de la commission de classification des œuvres cinématographiques et présidente du conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. La présidence de la RMN Grand Palais est un poste très convoité. Cet établissement public issu de la fusion entre la RMN et le Grand Palais emploie près de 1100 personnes pour un budget d'environ 170 millions d'euros. Souvent moqué par ses pairs pour son activité très rémunératrice de location d'espace sous la nef du Grand Palais, l'établissement public doit cependant faire face à des difficultés nouvelles. À la fermeture de la librairie du Louvre s'ajoute un palier dans la fréquentation des visiteurs, entre guillemets, comme le soulignait le projet de loi de finances 2016, un palier qui a même tendance à se transformer en baisse, puisqu'en 2015, les entrées ont diminué de 6%. C'est dans ce contexte que la RMNGP va devoir gérer la fermeture du Grand Palais pendant 2 ans, entre 2019 et 2021, pour d'indispensables travaux. En théorie, et selon les nouvelles règles fixées par Fleur Pellerin, son mandat est de 5 ans, renouvelable 2 fois par période de 3 ans. Claire Baumler dans le Figaro s'est intéressée au communiqué de la ministre de la Culture publié mercredi dernier. Le communiqué, c'était sur proposition de Fleur Pellerin, le président de la République a nommé Sylvie Hubach à la présidence de la RMN Grand Palais. Sur sa proposition, vraiment, s'interroge la journaliste, bien peu aujourd'hui croit à cet élément de langage très diplomatique. La ministre a eu beau insister le 20 janvier lors de ses vœux à la presse sur la nécessité qu'elle avait eue de tenir secrète la candidature de Sylvie Hubach pour des raisons de confidentialité. Il semble que l'histoire se soit jouée ailleurs que rue de Valois. Sylvie Hubach est légitime pour la présidence du Grand Palais, institution phare pour les grandes expositions. Son arrivée toutefois remet à nouveau sur le tapis la délicate question de l'usage du pouvoir de nomination et la quasi-impossibilité de lui appliquer des règles un tant soit peu claires. En décembre, la ministre de la Culture avait reçu dans son bureau les candidats à la présidence du Grand Palais laissés vacantes par le départ en retraite de Jean-Paul Cluzel. Projet de relance pour l'établissement à l'appui, ces derniers avaient passé un entretien, puis subi une sélection en règle. En fin de parcours, la ministre avait suggéré 2 noms au président de la République, celui d'Olivier Poivre d'Arvor, ancien directeur de France Culture, et celui de Valérie Vesque-Jancquart, actuelle numéro 2 du Grand Palais. Elle était suivie en ce sens par Matignon, qui avait également fait passer une note à l'Élysée. Samedi 16 janvier, Olivier Poivre d'Arvor tenait largement la corde et devait être reçu rue de Valois, heureux d'avoir enfin trouvé un point de chute. Mais au royaume des nominations publiques, la rationalité n'est presque jamais de mise et la politique rôde, mettant à mal toute forme de discours construit. Mardi 19 janvier au soir, brutalement, tout le monde a compris que ces entretiens n'étaient qu'un jeu de dupes et que le président de la République avait tranché, seul ou presque, dans son bureau. Il va de soi qu'il n'a prévenu Fleur Pellerin qu'une fois sa décision prise. On dit que Jean-Paul Cluzel a été à la manœuvre pour ce retournement de dernière minute, mais qu'importe dans le fond, l'essentiel est ailleurs. En cette année préélectorale et alors que 4 grands postes culturels vont être remis en jeu, jeu les présidences de la BNF, du musée d'Orsay, du théâtre de Chaillot et du domaine de Versailles, le président avance seul et ne s'interdit pas de donner les présidences de musée comme autant de cadeaux à ses proches. Sylvie Hubach est d'ailleurs issue de la promotion Voltaire de l'ENA, celle de François Hollande ou de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée, comme l'était Frédéric Bredin, nommé au Centre national du cinéma en 2013. On se souvient que le candidat Hollande avait promis de ne pas réitérer les défauts de l'État UMP et avait promis de ne pas placer ses relations au pouvoir. La promesse était sans doute difficile à tenir. Quel président s'entourerait d'ennemis? Mais pourquoi organiser des entretiens et faire travailler des candidats à un projet? Aujourd'hui, ceux dont les noms ont circulé en vain doivent se le demander.
Oui, enfin, l'histoire se répète. Hein. On a la même chose. Enfin, on en a parlé récemment pour le théâtre de l'Odéon, dont la succession a été plus rapide en raison du décès de Luc Bondy. Mais le président a décidé seul, là aussi. C'est monnaie courante, Jean-Max Collard.
Oui, c'est monnaie courante. Et effectivement, la question se pose de savoir finalement pourquoi. Pourquoi faire des appels, pourquoi faire des entretiens, pourquoi finalement
demander faire des procédures, etc.,
ce que tout le monde réclame, des procédures claires de recrutement pour au final voilà avoir des choix, les choix qui se font ailleurs. Donc là, ça devient une sorte de comédie qui est quand même un peu dommage. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de loi et du coup
on l'a vu pour la Villa Médicis aussi.
On l'a vu pour la Villa Médicis, on l'a vu pour beaucoup de choses et du coup ça donne exactement l'impression d'un arbitraire d'un pouvoir.
Corinne Rondeau.
Oui.
Non,
mais je suis aussi à l'université, qu'on se rassure. Hein.
Oui, vous parlez de ce que vous connaissez bien aussi, c'est ça, Corinne. Bon. Écoutez, on suivra de toute façon ce que fera Sylvie Hubach au Grand Palais, puisque dans l'année maintenant la présidente de la RMN, Grand Palais plus précisément. Vous avez davantage envie de parler de livres, non, je parie, Corinne Rondeau?
Mais oui, j'essaie.
Ouais.
Ben oui, parce que c'est important de parler d'écriture, enfin des choses écrites et que pas que des images.
Ouais.
Donc là, c'est Ville en ruine, images, mémoire, métamorphose. Alors c'était. C'est une coédition Azin et du Louvre. C'était un colloque en 2013 qui a eu lieu. Alors je dois dire que le livre est assez bien fait parce que les communications sont plutôt bien. Et puis le prologue et l'épilogue, l'un, alors Giorgio Agamben, il n'est jamais aussi bon que lorsqu'il parle des choses mortes. Donc son introduction est tout à fait admirable sur le fait que l'archéologie, c'est pas l'histoire évidemment, mais ça ne permet pas l'accès comme on le croit au passé, ça permet l'accès au présent. Finalement, on manque sans doute d'une pensée aussi autour de l'archéologie. Et puis l'épilogue, qui est celui de François Hartog, qui n'est jamais aussi bon que lorsqu'il essaie de parler du présent, ce qui est le but de chaque historien. D'ailleurs, nous manquons aussi d'historiens. Moi, j'aimerais les entendre plus souvent. Et ensuite, vous avez trois parties. Donc, la ville et ses ruines, le sens des ruines et désastre moderne. Et à l'intérieur de ça, effectivement, on a le sac de Rome qui revient souvent. On a toutes ces villes qui ont été détruites, Ninive, Babylone, Troie, etc. Qui est une manière de dire que sont ces beaux noms vagues. Et comme le rappelle François Hartog, en parlant du suicide européen après la Première Guerre mondiale, dans Crise de l'esprit, nous voyons que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Je crois que c'est aussi une forme d'actualité que de revenir à la question des ruines. Et c'est à cela que finalement les partis nous convient. Alors évidemment, c'est aussi comment éviter de confondre la catastrophe et sa représentation avec les images de la guerre, je dirais depuis la guerre de Crimée jusqu'à finalement peut-être aujourd'hui, puisqu'il y a une indication assez rapidement brossée par Hartog sur Daesh, évidemment, puisque la question de la destruction des monuments, c'est aussi une destruction pas que du patrimoine, c'est aussi la destruction de la civilisation elle-même. C'est comment être attentif à la portée de la représentation comme véhicule d'une représentation de la nation, voire d'une identité nationale. Et c'est tout le rapport, par exemple, à la destruction de la cathédrale de Reims. Donc c'est aussi intéressant de se rapporter à tout ce que produit le discours politique autour des images et la destruction de symboles à travers la discussion, par exemple, de est-ce que le gothique est français, est-ce que le gothique est allemand, etc., etc. Et donc, c'est aussi, avec Cétis, un texte sur la distinction entre le patrimoine culturel, qui est une patrimonialisation, c'est-à-dire une fonction institutionnelle de l'oubli, une gestion économique de l'histoire, c'est-à-dire un oubli absolu de ce que peut être l'histoire au sens du présent. C'est tout cela que finalement les communications sont orientées, même si elles parlent de la Renaissance, si elles parlent du sac de Rome, si elles ont des accès sur la représentation, la croyance, quoi qu'on en pense, ou c'est toujours d'une certaine manière se rappeler de Hubert Robert. Est-ce que le présent c'est pas justement la collision entre le berger avec ses moutons dans une ruine, c'est-à-dire comment le passé discute avec le présent, et ce côté profane et ce côté sacré. Ben finalement, on en est peut-être aussi au point de rappeler que l'archéologie est peut-être une des grandes formes de pensée qu'on pourrait avoir, et comment on peut repenser l'ancien sans déprécier le contemporain, comment on peut pérenniser les formes entre des mondes anciens et des mondes modernes, c'est-à-dire un peu une visée humaniste entre Pétrarque et Erasme, et en même temps repenser nous-mêmes, je dirais, les transformations, les métamorphoses, puisqu'on se rappelle que le sac de Rome a fait passer finalement, par le biais des discours historiques aussi, de la Rome antique à la Rome chrétienne. Donc voilà, il faut donc relire le génie du christianisme de Chateaubriand.
Oui, et Villes en ruines, images, mémoire, métamorphose, c'est donc une coédition Azan, Musée du Louvre.
Édition.
Très bien. Jean-Max Collard, nous allons parler de cinéma avec vous. L'année dernière, à Marienbad, un film comme œuvre d'art.
Oui, alors effectivement, je me suis demandé s'il était bien intéressant de parler d'une exposition qui se déroule à Brême.
Oui, bien sûr.
En Allemagne. Et je me suis dit oui, pour une simple raison, c'est qu'en fait, cette exposition, d'ailleurs, ne viendra pas en France. Donc, si on veut voir l'exposition, faut aller voir à la Kunsthalle de Brême. Cette exposition, et il s'avère que elle est assez passionnante, d'abord parce qu'elle a comme objet, effectivement, un film, pas n'importe quel film, l'année dernière à Marienbad, dans la Rennais et dans la Robe Grillet, enfin, et d'ailleurs, toutes les archives du début, puisque l'exposition, c'est d'abord une sorte de documentation sur le film, et dans ces archives, on voit bien, d'ailleurs, que tout le début, les archives sont signées des deux auteurs, Rennais et Robe Grillet, tandis qu'à la fin, le film est signé Rennais, le livre est signé Robe Grillet. Il y aura comme ça une sorte de partage des tâches. Donc on peut suivre comme ça d'abord quelque chose de l'ordre d'une documentation. Et puis ce qui est vraiment très beau, c'est la deuxième partie de l'exposition, qui est en fait la principale, la totalité, presque quasi-totalité de l'expo. C'est une sorte d'expansion, là aussi, où on a quantité d'œuvres d'art moderne et contemporaine qui évoquent parfois directement ce film. Donc vous avez par exemple une artiste américaine que moi je ne connaissais pas. Or, je suis passionné par l'année dernière à Marienbad et j'ai une passion toute particulière pour Aubry. Et je ne connaissais pas le travail de Marie Arnett qui, elle, dessine de manière très fine à la main des plans entiers de l'année dernière à Marienbad. Voilà. Mais vous avez aussi des salles très belles qui marquent des salles baroques, vous avez avec du Jeff Koons, avec un très beau lustre dessiné par Robert Longo, avec des sortes de frises architecturales de Pablo Bronstein qui dit lui-même combien il a été influencé par ce film. Et en fait, ce qu'on remarque évidemment, c'est que ce film a été vu et énormément regardé par les artistes. Il a influencé aussi bien des gens comme Vito Acconci, aussi bien des gens comme David Lamlas, et on a comme ça toute une expansion à partir de ce film. C'est vraiment une très très belle exposition. Il y a aussi donc des choses qui sont des sources un peu visuelles du film. Par exemple, il y a une salle avec du Magritte, avec du Delvaux, et on sait bien que c'était les sources visuelles de Robe Grillet. Et puis on en a d'autres, évidemment, qui vont un peu plus loin, jusqu'au contemporain, jusqu'à des séries de mode largement inspirées par Marienbad, comme ça se fait maintenant souvent dans les travaux de stylistes. Et donc, c'est une exposition qui est pour ça assez formidable et qui prend comme acte l'idée que de replacer finalement ce film dans le champ, en quelque sorte, des représentations plastiques. Et c'est très beau.
Bon, il faudrait que Frédéric Bonneau la fasse venir à la Cinémathèque française, maintenant qu'il la dirige.
Ça me semblerait logique.
On passe à l'annonce.
Voilà, et je trouve d'ailleurs que c'était un très bon... Enfin, c'est une très bonne accroche, de prendre le film comme point de départ plutôt que simplement le réalisateur, c'est-à-dire une exposition rennaise, ce serait tout à fait honnête, mais de prendre un film particulier et de montrer sa longévité sur 30-40 ans d'art contemporain, c'est pas mal.
Alors quand vous avez un petit document à vos côtés, vous allez pouvoir me dire jusqu'à quand on va pouvoir voir cette exposition à la Kunsthalle de Brême.
Alors peut-être ira-t-elle à Prague aussi, mais enfin en attendant, vous pouvez aller la voir jusqu'au 13 mars à Brême.
Est-ce que vous savez qui en sont les commissaires ou le commissaire
Jean-Max Christophe Grunenberg, Bernard qui dirige la Kunsthalle de Brême.
Très bien, parce qu'il faut absolument être précis dans nos informations.
Soyons-le.
Dans cette émission, tiens, une autre information pour dire que samedi à 14h, j'aurai le plaisir d'animer une nouvelle session des scènes imaginaires. Ce rendez-vous que nous avons entre France Culture et le Théâtre de l'Odéon, l'invité, le créateur qui dévoilera son imaginaire, oui, ce sera Richard Peduzzi, le scénographe, plasticien, ancien patron justement de la Villa Médicis, mais aussi de l'École des Arts Déco. Il a choisi un ensemble de textes qui permettront de structurer l'entretien que j'aurai avec lui. Des textes qui seront lus par Clotilde M. Michalesco, Olivier Rollin, Vincent Huguet, Jérôme Deschamps. Il y aura aussi de la musique, parce qu'elle est importante pour Richard Peduzzi. La musique jouée en live, comme on dit en mauvais français, Judith Fay et Alphonse Semain, mais aussi Rosemary Stanley seront là pour cette scène imaginaire. C'est donc ce samedi à 14h au Théâtre de l'Odéon dans le 6e arrondissement. Pour réserver vos places, vous allez soit sur le site de l'Odéon, soit sur le tout nouveau, tout beau site franceculture.fr. Dans quelques minutes, nous nous intéresserons à Pixel Collage, le titre de l'exposition de Thomas Hirschhorn à la galerie Chantal Crozel, qui se trouve être toute cette semaine, Chantal Crozel, l'invité de la dispute.
Enchanté, comment allez-vous ? Très bien, merci.
Chantal Crozel, on pourrait dire depuis 1980 à Paris, cette galerie que nous aimons tant fréquenter. Et j'espère que nous envoyons régulièrement les auditrices et auditeurs venir voir les expositions de très grande qualité que vous y proposez. Et je le répète sans cesse, les galeries sont quand même le meilleur moyen pour être en contact avec l'art de son temps. Et en plus, c'est gratuit, on est bien reçu, on ne fait pas la queue à l'extérieur sur le trottoir, bon, sauf cas exceptionnel.
Sauf les jours de vernissage.
Voilà, sauf les jours de vernissage, mais il y a tous les autres jours, et c'est très important que votre galerie, évidemment, parmi d'autres, continue leur travail. Les 35 ans d'existence ont été célébrés. La vie continue. Alors d'ailleurs, on peut parler de l'actualité de la galerie, puisque en ce moment, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup aussi, c'est Thomas Hirschhorn, qui est présent dans votre galerie. Le choix des artistes, enfin, quand on regarde sur le site de la galerie, la liste des artistes que vous représentez, elle est impressionnante. Et en même temps, on a bien entendu déjà dans les soirs précédents, Chantal Crozel, que ce qui vous intéresse, c'est la relation humaine, c'est le rapport au monde, et c'est ce que dit très bien aussi Thomas Hirschhorn dans tout son travail. C'est pas, il y a jamais de hasard dans la rencontre entre la galeriste que vous êtes et les artistes.
Non, effectivement. Quand j'ai commencé ma programmation de galerie, j'avais une connaissance. Il faut savoir que je suis venue de Belgique en 72 et que j'ai étudié l'histoire de l'art en licence dans une école privée qui s'appelle l'ICAR, parce que je n'avais pas passé mon bac en Belgique, et donc il fallait un autre billet. Et j'avais déjà travaillé dans d'autres domaines avant d'étudier l'histoire de l'art. Mon mémoire était concentré au mouvement Cobra, en étant belge et sachant qu'il y avait encore la plupart des acteurs vivants en Belgique, au Danemark et en Hollande, j'ai eu la chance de pouvoir aller les rencontrer, leur parler. Mon mentor était Christian Dautremont, lui-même le fondateur de Cobra et le rédacteur de la revue Cobra, qui m'a beaucoup guidé et encouragé à même écrire un livre sur Cobra, ce que je n'ai pas eu le temps de faire. Mais il a été un des premiers artistes à exposer dans ma galerie, mais la galerie à l'époque ne s'appelait pas Chantal Crozel, mais s'appelait La Dérive. Je l'ai créée en 76 avec un ex-étudiant de l'histoire de l'art qui était Jacques Blasi et qui est un grand spécialiste qui a travaillé ensuite de son côté avec Jacques Kerschach sur la constitution de la collection du musée du Quai Branly. À l'automne, nous allons refaire une exposition en duo avec de l'art contemporain et de l'art ancien, premier.
40 ans après.
40 ans après. Parce que nous y croyons. En 80, j'ai été marquée et orientée par deux expositions que j'ai vues au musée de Gand, dont le directeur était Jan Hout, un des très grands directeurs de musée et un des très grands directeurs d'une des documenta à Cassel, qui avait fait une exposition qui s'intitulait « Art en Europe après 68 », qui montrait des artistes de cette génération de différentes origines, de différents pays, mais qui vivaient en Europe, qu'ils soient américains ou européens. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de Tony Cragg, dont j'ai pu découvrir les œuvres en même temps que Yanout, et en le conduisant à la gare pour reprendre son train, je lui ai demandé s'il voulait venir à Paris faire une exposition. Et il était ravi, et donc c'était le début. C'était une de nos premières expositions ensemble. Ensuite, une deuxième exposition de Yanout qui a eu lieu 2 ans après, à peu près, s'appelait « Chambre d'amis ». Et ça se passait dans différentes maisons privées de collectionneurs gantois à Gand. Il y avait un artiste, un intérieur, un qui l'accueillait. Et cette exposition a donné lieu à un périple d'une maison à l'autre, d'une rue à l'autre, dans des très belles maisons en général, avec des œuvres absolument époustouflantes, allant de Fabro à Bruce Nauman, via Joseph Beuys, via les plus grands de l'époque. De l'inédit de pouvoir sonner à la porte chez quelqu'un et de que cette personne montre très généreusement son intérieur, explique les œuvres avec lesquelles il vivait pendant 4 mois. Et au fur et à mesure, mon programme s'est basé là-dessus. Je voulais préciser une chose qui est quand même le fil conducteur de ce que guide mes choix et qui lie tous les artistes entre eux aussi, il faut bien dire. C'est l'articulation de l'identité et la situation à la frontière des territoires connus. Quand on appartient à un pays et qu'on va de l'autre côté de la frontière, carrément, on regarde ce qui se passe au-delà des frontières dans les différents pays du monde où il y a de l'art contemporain partout, même si nous, on n'en a pas idée ou si nous, on n'en a pas la clé d'accès, mais chaque individu civilisé a une histoire derrière lui de ses ancêtres et un point de vue à exprimer par rapport à la situation actuelle. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de confronter et de faire dialoguer ces différents points de vue d'horizons très différents. Ce qui m'amène à beaucoup voyager aussi, mais ce qui permet d'établir un état du monde vu par les artistes qui est très passionnant et qui rejoint le cinéma, la littérature, la musique, le spectacle vivant. Ça fait un tout.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en allant justement dans la galerie Chantal Crozel pour y découvrir les œuvres récentes du Suisse Thomas Hirschhorn, réunies sous le titre « Pixel Collage », qui est aussi une sorte de description formelle de ce travail. Thomas Hirschhorn qui nous revient avec cette exposition, dont le titre donne un peu la forme, Pixel Collage. Il faut peut-être commencer par donner des images, c'est bien le moins pour cette exposition. Jean-Max Collard.
Oui, alors c'est des images terribles, ce sont des images difficiles, mais surtout ce sont effectivement de grands collages. Et il y a donc trois natures, trois éléments que Thomas Hirschhorn colle dans ces œuvres de très grande dimension pour la plupart. Vous avez d'abord des images de guerre, des images insupportables, des images de gens de corps défoncés par la guerre, on va dire. Et puis prise dans le flux des images sur Internet, des images que souvent les médias ne montrent pas. Ça va être toute une question, évidemment, de Thomas Hirschhorn. Et puis, il les colle avec des images de mode. dont il efface la marque, mais il le reprend donc dans des magazines, des doubles pages de publicité, et il accomplit comme ça un travail de collage, de suture, où il met ensemble ces images qui n'ont évidemment rien à voir dans leur nature. Et il y a un troisième élément qui vient s'ajouter et que Thomas Hirschhorn colle lui aussi avec une application. On voit bien dans la quand on s'approche des pièces, je dirais les couches,
fait main,
tout le côté fait main de l'affaire, pour montrer justement la manipulation, pour montrer les choix de ce qu'on montre et de ce qu'on cache. Et donc il y a des carrés de monochrome qui viennent comme ça servir de pixels et qui viennent recouvrir des zones de l'image. Et particulièrement, le principe qui n'est pas toujours suivi, mais qui est quand même grosso modo le principe dominant de cet ensemble de pièces, c'est que les pixels ne viennent pas pour cacher ce qui est difficilement regardable. Ils viennent pour cacher justement ce qui est le plus souvent montré, à savoir les images de mode. Donc il y a une sorte de déplacement comme ça de l'ordre du pixel qui fait qu'on nous donne à voir ces images de guerre et on nous cache ces images que d'habitude on nous montre, hein, et dans tous nos magazines. D'ailleurs, on peut signaler, puisqu'on en a discuté avec Thomas Hirschhorn, Claire Moulin et moi, puisqu'on a fait cette semaine un article dans les Inrecuptibles, que Thomas nous racontait que un magazine de mode lui a demandé de montrer des séries d'images, de faire un portfolio, etc. Et voyant d'ailleurs la nature des images, et a renoncé au portfolio parce que ça allait faire des problèmes avec les annonceurs de mode. Donc il y a une gêne bien logique, bien attendue, d'évidemment tout ça. Alors, on va évidemment en discuter, j'imagine qu'on va s'en disputer, mais et sans vouloir me réfugier derrière la question esthétique, je dirais d'abord que moi je trouve que c'est d'une grande puissance plastique, comme souvent chez Hirschhorn, mais par moments, voilà, on en prend plus la mesure encore quand justement on est dans des pièces presque uniques, dans des pièces qui n'envisagent pas toute une installation
globale. Oui, c'est pas
la, voilà, parce qu'il fait parfois des installations où il prend tout l'espace et c'est évidemment très impressionnant, et on perd parfois de vue l'inventivité plastique de Hirschhorn depuis longtemps. Et là, moi, je trouve que bon, il y a une très grande force plastique. Ces grandes compositions de pixel collage dialoguent, au fin de compte, évidemment, traversent les questions d'actualité, mais elles dialoguent au fond aussi avec une grande peinture d'histoire qui, elle, est pleine aussi d'atrocités et d'horreurs. Ça, on le sait depuis longtemps dans nos musées et dans nos églises. On avait bien des œuvres qui montraient des supplices, etc. Et donc, voilà, c'est un travail d'abord, effectivement, plastiquement remarquable, mais éminemment problématique.
Corinne Rondeau, Pixel Collage, Thomas Hirschhorn.
Oui. Alors, effectivement, Jean-Max a tourné longtemps avant de nous dire ce que vous allez voir d'abord. Ce sont des corps déchiquetés, explosés, brûlés. C'est-à-dire qu'il était un peu comme face à l'origine du monde. C'est-à-dire, je tourne autour du corps avant de vous dire ce que vous allez voir. C'est vrai que c'est problématique. Alors, il ne faut pas négliger qu'on ne peut pas confondre un corps avec sa représentation. Donc, il faut sans doute, des amis qui sont rentrés m'ont dit « je sors immédiatement ». Donc, tout le monde ne peut pas rester devant les images de Thomas Hirschhorn, malgré la puissance esthétique dont vous parlez, Jean-Max. Je trouve que par ailleurs, il y a effectivement cette dialectique qui est assez littérale chez Hirschhorn. Et je n'aime pas trop Hirschhorn depuis très longtemps. Je trouve qu'il a un côté extrêmement volontariste et très autoritariste dans ses environnements. Et j'ai envie d'air quand je rentre dans une expo. J'ai envie que les artistes me donnent à respirer et pas qu'ils me disent avec une main sous la nuque, derrière la nuque, en me disant « regarde, regarde, tu as vu comme le monde est moche ?» Oui, effectivement, j'ai pas besoin d'un artiste pour le savoir. Donc cette dimension volontariste qui consiste à dire on ne vous montre pas, on veut prendre à votre place la charge de votre responsabilité face à ce qu'il ne faut pas voir ou ce qu'il faut voir. Donc en ce sens, il ne veut pas que ce soit des images informatives. Il veut que ce soit de l'art. Bon, et il trouve l'idée que il va déplacer le pouvoir de l'image médiatique elle-même, qui consiste à nous protéger de ce qu'il ne faudrait pas voir. Donc il va faire une critique par ce déplacement de tout ce que vous regardez, c'est de la consommation, c'est du du luxe. Et toute cette consommation vous aveugle du monde réel qui sont faits aussi de corps détruits. Et il veut, et c'est un mot qui revient tout le temps, la volonté, vouloir, je veux qu'on voit ces corps détruits. Premièrement, j'ai envie de lui dire, ce sont des images de corps détruits. D'accord? On va pas confondre effectivement l'origine du monde avec un sexe de femme. Sinon, effectivement, il n'y a plus de MST, on a trouvé la solution. La deuxième chose, j'ai aussi envie de dire que quand il propose sa vitre pédagogique, qui consiste à dire « comment ai-je fait ?», il veut vraiment prendre le pas de l'explication et il a le rapport du petit pédagogue, je dirais, pour nous expliquer l'aveuglement dans lequel nous sommes pris par rapport aux images aujourd'hui. Je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup trop d'images et que finalement, il y a aussi des accoutumances et qu'en ce sens, j'aimerais que les artistes aussi se mettent plus à écrire parce qu'il y a trop d'images qu'à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on voit. Et je crois qu'à force de vouloir, vous savez, comme le disait Balzac dans La peau de chagrin, vouloir nous brûle, pouvoir nous détruit. Il faudrait peut-être remettre les choses à leur place, à savoir que je crois que malgré, je dirais, la sincérité de Thomas Hirschhorn dans son travail, c'est avec cette volonté, toujours cette volonté qui, à mon avis, dépasse un petit peu... Moi, le texte qui a été publié chez Macula, je n'ai pas voulu en parler, parce que je trouve qu'ils sont d'une mégalomanie absolue. C'est cette manière de vouloir nous montrer que nous ne voyons pas. Je ne veux pas qu'un artiste me fasse la leçon. Et je crois que ses œuvres ont une leçon. Mais par ailleurs, à bien regarder ses œuvres, petit et grand format, elles ont quelque chose d'absolument pompier d'académique. À savoir que c'est pictural, il faut dire qu'il y a Otto Freundlich qui est derrière en référence, c'est sous la vitrine, c'est effectivement dans des tonalités d'Otto Freundlich assez sidérantes, il faut bien les voir. Là, ce côté, comment vous, il veut absolument qu'il y ait de l'art, donc il veut mettre de l'abstraction de l'image dans le corps. Alors, ça, bon. Mais c'est pompier en quoi? Parce que je crois que la question de l'académie aujourd'hui, c'est la pente désastreuse d'un certain pan de l'art contemporain qui cherche à annexer ou se faire annexer par des concepts de sociologie ou de social ou de médias. Et ça, c'est insupportable parce que je pense que ça tue une partie de la représentation de l'art contemporain, mais aussi de la littérature contemporaine. Il faudrait arrêter de croire qu'on écrit parce qu'on parle du monde, de la réalité. J'ai envie de dire à quel moment on pourra réécrire de la littérature tout en parlant justement de la guerre, de la destruction des corps aussi. Alors bon, moi j'entends qu'il y a quelque chose d'une beauté, malgré tout, de certaines images que j'ai pu voir. J'ai eu l'impression, même à certains moments, il y en a une, là j'en vois une, de l'autre côté, c'est carrément, il y a quelque chose de pictural. Donc il y a quelque chose quand même qui échappe. Ce qui me sidère, c'est que à la fois il fait tous les commentaires des communiqués de presse de la galerie, et à aucun moment il ne parle de la dimension picturale, figurative qu'il y a dans ses œuvres. Ça c'est comme la part aveugle de Thomas Hirschhorn.
Ce qu'il ne voit pas, lui, peut-être.
Je crois qu'à force de dire regardez, il est un peu aveugle.
Jean-Max Collard, réponse.
Peut-être. Non, je crois pas. Moi, j'ai d'abord commencé à parler de peinture d'histoire. Je crois que sur la question du format, sur la question de la monumentalité du format.
Mais c'est quand même des photographies, hein.
Non, c'est pas des photographies, c'est des photographies retraitées, c'est du collage. Donc c'est beaucoup de manipulation. Quand en plus c'est des photographies elles-mêmes reproduites à très grand format, c'est aussi des images d'images. Donc c'est encore autre chose. Et c'est bien ça le matériau au fond ici qui est celui de Thomas Hirschhorn. Là où je suis pas d'accord avec beaucoup de choses sur ce que dit Corinne, c'est d'abord le fait que il y aurait d'un côté un monde réel et puis un monde qui serait faux, qui serait non. En réalité, ce que fait le collage,
le collège.
c'est évidemment l'idée de que c'est un même monde, quoi. C'est-à-dire, c'est l'idée que c'est le même monde qui produit à la fois ces régimes d'images, c'est-à-dire ces images de mode et ces images de guerre. C'est pas des mondes séparés, c'est pas des mondes distincts. C'est effectivement le même univers. Donc ça induit évidemment une circulation entre ces zones-là. Et moi, ce que je trouve intéressant avec le pixel, c'est le fait que d'abord, c'est de remettre ces images qui sont dans une circulation visuelle. Alors, on peut le prendre comme une leçon, comme une injonction à voir, mais il y a aussi le fait que ces images, très souvent, nous sont cachées. Et on le sait très bien qu'il y a beaucoup d'images très dures qui ne nous sont pas montrées. On l'avait vu aussi au moment du 11 septembre, les images qui n'étaient pas montrées. C'est-à-dire que, d'un côté, on nous protège D'un côté, on nous protège de ça. Et de ce point de vue, moi, je n'en veux pas un artiste qui veut finalement ou qui enlève, je dirais, cette protection et qui refuse en quelque sorte cette neutralisation qu'on peut avoir sur certaines images. Donc, je trouve que aller affronter ce matériau, aller reprendre ce matériau, travailler avec ce matériau, moi, je trouve il y a un courage en réalité. Il n'y a pas simplement, c'est pas simplement une infantilité faible. Il y a un véritable courage à aller travailler avec ça et à en faire effectivement une manipulation visuelle qui rend compte effectivement du fait que si on pixelise les images de mode, ça veut dire qu'il y a peut-être plus affreux que ce qu'on voit et c'est peut-être sous le pixel. Donc du coup ces images elles deviennent regardables, étrangement regardables, et elles nous interrogent aussi sur ce qui anime au fait les pulsions qui sont à l'œuvre dans ce qu'on nous cache, dans ce qu'on nous montre, dans ce qu'on va regarder sur internet, dans ce qu'on ne regarde pas. Voilà, il y a une manière effectivement d'être renvoyé à nous-mêmes. Ça, ce ne sont pas le fait de cacher ou de montrer, ça ne peut pas être dans un cas comme dans l'autre, ça ne peut pas être neutre.
Corinne Rando.
Non, mais la question, je pense que vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Je pense que moi, j'attaque pas du tout Hirschhorn sur le fait qu'il veuille nous montrer ce qu'on nous cache. Je suis pas pour les bonnes intentions, ça m'intéresse pas. Je suis pas contre la violence non plus. Je pense que il y a peut-être un nouveau régime de violence qu'il faudrait incorporer. Je crois que malheureusement, entre Hartfield et Martha Rosler, ils n'inventent absolument rien concernant la question du collage, qui sont aussi des critiques, et encore que Hartfield avait anticipé comme un visionnaire ce qui allait se passer en Allemagne. Mais par ailleurs, je pense qu'en fait, l'euphémisation qu'il y a sur les images choc, où on nous interdit de le voir, pour avoir un discours là sur les médias, et non pas sur Hirschhorn, dont il récupère, Thomas Hirschhorn en fait une hyperbole. L'hyperbolisation, c'est tout. Il est dans la même dialectique, dans le cachet. Je vais vous montrer ce qu'on vous cache. Alors, c'est tout. Moi, je trouve
non,
que c'est un peu...
Non, je vais pas vous simplement vous montrer ce qu'on vous cache. Je vais vous montrer ce qu'on vous cache. Je vais cacher ce qu'on vous montre.
Quand je parle de dialectique, il y a un double qui circule. Je veux dire, à un moment donné, on peut quand même se poser la question de à quoi servent les images de Thomas Hirschhorn. C'est la seule question que je me pose, même si j'accepte qu'on me montre des images violentes, même si j'accepte qu'on me montre, je regarde absolument tous les films qui sont liés à la guerre, je veux dire, je les regarde comme je le peux, je ne vais pas faire de voyeurisme, parce qu'il y a aussi une critique du voyeurisme à l'intérieur de ça. Je rappellerai aussi qu'on veut nous protéger, mais que les médias ont une loi en France depuis les attentats de 95. Depuis 2000, les médias ne doivent pas diffuser des images de gens qui sont affaiblis, humiliés ou blessés.
Dernier mot, tout dernier mot, Jean-Max Collard.
Non, mais dire à quoi ça sert, je pense que c'est une question à la fois ouverte et je veux dire... C'est des images, et on sait très bien que les images qu'on nous montre là, elles sont l'objet de manipulations très diverses.
Mais
ici,
oui,
on n'en a pas la source.
Mais pourquoi reprend-il le même procédé à l'envers? C'est le même mur entre les médias et Thomas Hirschhorn. C'est ça. Alors, quand j'ai parlé de peinture,
mais ça
c'était
nous sert
peut-être
tout simplement,
là où c'était la
sortie. Ça nous sert tout simplement à
mais
voir
si
la façon dont on nous montre
des médias
et dont on nous cache.
Du social,
voilà,
ça me dérange pas.
Oui, voilà. On peut le dire déjà comme ça. Ça nous sert simplement à avoir une acuité visuelle face au régime d'images qui nous traverse et qui nous environne. Je veux dire, de ce point de vue, c'est voilà déjà à quoi ça sert. Ça nous sert à nous refaire l'œil autrement.
Mais ça, c'est du discours, Jean-Max.
Mais non, c'est pas du discours.
C'est du discours.
C'est ce qu'on sent quand on
quand
est devant
gens,
ces œuvres-là.
Quand les gens rentrent dans la...
Attendez, quand les...
vous avez peut-être parlé avec Thomas Hirschhorn, vous avez aussi vu des gens au vernissage qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis moi, j'y suis repassée, et puis il n'y avait pas que des gens qui avaient le sourire Donc la question,
j'étais
c'est
pas
aussi...
au vernissage, hein.
Non, mais je sais pas. Mais il y a la question de l'affect. L'affect que produit ces images, il est dans l'affect. Il n'est pas que dans le régime du discours des images. Et la question de l'image, c'est justement l'affect. Qu'est-ce que ça produit? Et ça produit toutes les polémiques stériles de « attention, on veut vous protéger, on ne veut pas vous protéger ». La question de l'art n'est pas de nous protéger, ni de faire des dessins.
C'est bien pour ça.
Mais
c'est
il ne peut pas non plus jouer le rôle du démon. Ça ne veut rien dire.
Ça n'est pas un démon, ça n'est pas un rôle
démon. Non, attendez, j'ai des mots, d'accord.
Bon, allez voir par vous-même jusqu'au 26 février.
Jean-Marc, je voulais une dispute, il doit être content.
Oui. C'est à la galerie Chantal Crozen à Paris, Pixel Collage de Thomas Hirschhorn.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
On conclut l'émission. Je vais te même dépêcher avec le jeu de la dispute. On commence par un retour sur le jeu d'hier soir. Antoine Guillot.
Vous avez gagné des invitations pour le spectacle Les Français, mis en scène par Christophe Verlikowski à la Comédie de Reims. Je vous avais demandé quel auteur dramatique avait tiré une pièce de théâtre de sa tentative ratée d'adapter au cinéma À la recherche du temps perdu. C'était Harold Pinter.
Ce soir, on gagne des invitations pour le beau film de Bully Lanners, Les Premiers et les Derniers, la question.
Quel est le nom du festival de cinéma cofondé par Bully Lanners et qui se déroula de 1994 à 2000?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous, Corinne Rondeau, Jean-Marc Scolar, Antoine Guillot. Merci à l'équipe de la dispute, Sam Boutata, Daniel Finot, Antoine Guillot et Virginie Le Duo. Merci à Philippe Thibault qui a assuré la prise de son ce soir et à Daniel Finot qui signait la réalisation. Demain à 21h, dispute musique avec Olivier Lam et Hugo Cassavetti. Nous parlerons de New View, l'album d'Eleanor Friedberger, et puis Songs for Our Mothers to Fight White Family. Et puis nous évoquerons aussi Skilled Mechanics, le nouvel album de Tricky. On retrouvera une revue de presse culturelle signée Antoine Guillot, le jeu de la dispute, les choix de Chantal Crozel, l'invité de la dispute. Tout ça, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture dans quelques instants, le journal de la rédaction.